aborder notre prédication de ce matin. Je ne vais pas vous parler de l'épître de Jude, évidemment. Hein. Ça fait 5 fois, bien que je n'ai pas tout dit. Hein. On en découvre encore, hein, c'est extraordinaire. Alors nous allons entrer dans l'Apocalypse pour voir un peu où est-ce qu'on peut aller avec ces textes. Et je vous propose de lire d'abord les trois premiers versets de Apocalypse 1, comme ça on est directement dans le sujet, et puis nous irons au chapitre 6. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Et chapitre 6, versets 1 à 8. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 seaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens !» Je regardais, voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour 1 denier et 3 mesures d'orge pour 1 denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens !» Je regardais, voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Jusqu'ici la lecture. Père éternel, nous voulons encore une fois nous mettre devant ce texte, peut-être difficile, mais qui est ta parole. Seigneur, merci parce que tu nous donnes ton message à moi et à mes frères et sœurs. Merci encore parce que cette parole a traversé les siècles et qu'elle est arrivée intacte à nous. Qu'elle nous remonte vraiment notre foi en toi, Père. Mais en toute chose, qu'à toi revienne encore une fois toute la gloire. Amen. Ah, l'Apocalypse. Le livre qui a certainement usé des milliers de feuilles et des milliers de litres d'encre, tant il a été écrit des commentaires et des interprétations. L'Apocalypse est certainement le livre qui a traumatisé le plus de monde dans toutes les régions, dans toutes les époques, depuis sa rédaction située plus ou moins en l'an 70 ou 90. C'est sans doute le livre le plus controversé de toute la Bible. Même les réformateurs avaient des difficultés avec ce dernier écrit biblique. En effet, pour certains, l'Apocalypse n'avait pas vraiment sa place dans la parole de Dieu parce qu'il ne savait pas trop bien quoi en faire. Et pendant des siècles, on s'est posé la question s'il fallait l'inclure dans le canon du Nouveau Testament. Martin Luther a commencé par la mettre de côté, une appendice à côté de la Bible, et considérant que ce n'était pas une écriture sainte. Calvin, après avoir commenté la plupart des livres bibliques, s'est arrêté respectueusement et n'a pas été plus loin, n'a pas commenté l'Apocalypse. Et puis Zwingli, qui est un autre réformateur suisse, lui, il pouvait se résigner à dire que c'était un livre biblique, tout simplement. Rassurez-vous, je n'aurai pas la prétention, moi, de commenter, ni d'expliquer, ni même d'interpréter ce livre unique, cette merveille qui se trouve dans notre merveilleuse bibliothèque qu'est la parole de Dieu. Mais je me suis dit, il est quand même un peu dommage. Dommage qu'on ait mis Apocalypse au sens de terrifiant. On dit Apocalypse, on a peur. apocalyptique d'emblée comme catastrophique. Et si c'est un cataclysme, un tsunami ou une guerre, c'est automatiquement apocalyptique. Les dictionnaires reprennent quand même la définition comme catastrophe effrayante, qui évoque la fin du monde et son ampleur. Même dans le dictionnaire, c'est arrivé jusque-là. Et de nombreuses peintures ont inspiré des récits tels que Zoumer. Énormément de livres, énormément de films aussi. En fait, si ce livre fait un peu peur aussi, c'est peut-être un peu de notre faute. Parce qu'on n'en prend pas vraiment attention à ce livre, l'Apocalypse. Il est vrai qu'il nous dérange. Hein. J'ai remarqué parfois les jeunes chrétiens, enfin, oui, les jeunes chrétiens, peu importe l'âge, les jeunes convertis, ils lisent l'Évangile et l'Apocalypse. Ce qu'on a fait, et puis ce qui va arriver. Le reste, on verra après. Quoi. Et puis après, on ne lit plus l'Apocalypse. Mais ce serait peut-être plus facile si c'était un livre d'ancienne histoire, ou si c'était un livre actuel. Mais c'est un livre qui parle de l'avenir. L'avenir qui pourrait être plus proche, peut-être, qu'on ne pense. Le titre de ce livre fantastique, j'aime bien ce terme fantastique, dans le bon sens du terme, est donné dans le premier mot du verset que nous avons lu, Apocalypse, révélation, qui n'est autre que la traduction tout simple du mot grec apocalypsis. Premier mot de Apocalypse, révélation. Révélation, c'est quelque chose qui est caché, qui était caché, que jusque-là, c'était tenu secret. Une révélation, c'est dévoiler. C'est ôter le voile qui empêche qu'on voit ce qu'il y a derrière. Une révélation. Chose quand même plus importante et aussi fantastique que ça est possible, c'est que cette révélation nous vient de Dieu. Nous avons lu le premier verset, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et j'ai mis trois petits points. Les choses qui doivent arriver bientôt. Bientôt. Nous sommes dans le temps de la montre, évidemment. Nous avons parfois des difficultés, nous, avec ce terme « bientôt ». J'arrive, hein, j'arrive bientôt, hein. Il y a quand même 2000 ans qu'il a dit ça. Il y a quand même 2000 ans que c'est écrit. Bientôt, c'est quoi ? Maintenant, si on prend nos scientifiques qui disent que la Terre a 4 milliards d'années, 2000 ans, c'est bientôt. Ou c'est maintenant. C'est comme nous voyons. Et quand on reprend le texte que nous avons lu, et qu'on voit l'ouverture de ces quatre sceaux du livre scellé, on a l'impression, moi j'ai eu l'impression d'avoir la zapette en main. Première chaîne, l'histoire du cavalier du cheval blanc qui, avec son arc, va conquérir le monde. On zappe le récit de la paix dans le monde qui disparaît. La guerre. Zappe la balance des négociations de la nourriture à prix d'argent. Clac, on zappe la mort par la guerre, la faim, la faune en colère. Et puis, on aurait pu zapper encore plus si on avait été plus loin dans le texte. On aurait eu l'ouverture du cinquième sceau qui dévoile la persécution des chrétiens. Sixième sceau, la vengeance de la terre, du ciel sur les êtres humains. Et cette énumération s'arrête au verset 17. Car le grand jour de la colère est venu, qui peut subsister ? Effectivement, ça fait peur. Mais qui peut subsister à tout ça ? Quand on zappe comme ça et qu'on voit, je ne citais pas les noms des chaînes. Effectivement, ça fait peur. Mais posons-nous quand même la question, à cette époque, à qui était adressé ce texte et qui adressait cette lettre ? Parce que c'était comme ça qu'on parlait. On aurait tendance à dire, et c'est la majorité évidemment, que ce livre, c'est pour la fin des temps. Comme ça. C'est pour la fin des temps. Si peu que nous n'y soyons pas dans la fin des temps. Mais tous qui ont vécu un malheur se rendent bien compte, ou une catastrophe, que c'est peut-être apocalyptique maintenant. Qu'est-ce qui est bientôt? Est-ce que c'était à l'époque, maintenant, après? Que dire de l'Église persécutée ou des gens qui vivent la guerre? Qu'est-ce qu'eux pensent de l'Apocalypse? Est-ce qu'elle est déjà là ou est-ce qu'elle vient après? Mais si on retourne à la date et à l'heure de son origine, on va essayer de vivre le moment où Jean reçoit. Jean est sur l'île de Patmos. Et ça se voit au verset 9, chapitre 1. Premier chapitre. « Moi, Jean, votre frère, qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » L'île de Patmos, c'est une toute petite île, 16 km sur 10 km, 16 sur 10, et à 80 km au sud-ouest d'Éphèse, tout petit bazar. Et à l'époque, les Romains exilaient là-bas ceux qu'ils jugeaient indésirables. Toi, tu ne me plais pas, hop, tu vas à Patmos. Et les chrétiens de ce temps-là étaient persécutés, emprisonnés, envoyés aux galères, et finissaient parfois dans la gueule de lion, et ceux qui avaient un petit peu de chance, sur l'île de Patmos. Ils étaient considérés comme des athées, parce qu'ils n'adoraient pas les idoles de l'époque, évidemment. Hein, mais surtout, ils ne rendaient surtout pas de culte à l'empereur. Hein, il fallait adorer l'empereur, mais ça, évidemment, les chrétiens, ça n'allait pas. Et de plus, ils devaient être de plus en plus nombreux, donc ça dérangeait un peu, quoi. Alors, tout comme leur maître, qu'est-ce qu'il fallait faire? On va le tuer, on va l'éradiquer, on va le persécuter, et ça va s'arrêter. Et cette lettre a été écrite dans ce contexte de persécution, et c'est dans ce contexte que Jean reçoit ses visions. Certainement qu'il transcrira un peu plus tard. Et il adresse ses écrits à ses frères et sœurs qui, bien entendu, sont dans le même cas que lui, qui sont dans la crainte, qui sont dans l'angoisse, et qui se posent de multiples questions sur cette foi qui est mise à mal. Qu'est devenu le message qui a fait de nous que nous sommes devenus chrétiens? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à une telle persécution? Où sont les promesses de la délivrance? Où est-il de son retour? Bientôt. De tout temps, la foi était mise à mal. Même la plus ancrée est mise à l'épreuve. Et se révèle parfois fragile. Quand on voit Pierre qui marche sur l'eau et qui après coule, homme de peu de foi. Qu'en est-il de ceux qui souffrent pour leur foi et leur témoignage? Et il nous est dit que Jean est sur l'île de Patmos à cause de ça. À cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Qu'en est-il de ces réflexions, de ces personnes à cette époque qui se disaient « Est-ce qu'on s'est trompé en devenant chrétien ? Est-ce que c'était peut-être qu'une illusion qui va passer, une religion comme ça ? Le christianisme était-elle peut-être une bonne religion, mais qu'il fallait vivre en cachette comme ça ? Ou vivre en cachette, peut-être ? Fallait-il conclure que ce n'était qu'une illusion qui allait être brisée sur le roc du politique ou du social ? Politiquement correct ou opium du peuple ? C'était une église rendue perplexe que ces propos et problèmes que l'Apocalypse a été écrite. C'est à des gens qui sont dans la souffrance. Mais l'église qui a traversé les siècles est devenue la nôtre. Est-ce que ce texte ne s'adresse pas encore à nous ? Peut-être qu'y avons les mêmes interrogations. Est-ce qu'on a bien fait d'être chrétien ? Pourquoi ? Où es-tu ? Quand est-ce que tu reviens ? Est-ce que tu reviens bientôt ? Si on considère le monde de l'époque de Jean, on peut dire que rien n'a vraiment changé en 2000 ans. Est-ce que c'était déjà pas les derniers temps, cette époque-là? On peut dire que l'Apocalypse aussi nous est adressée à nous, chrétiens du XXIe siècle. Mais est-ce que nous vivons déjà ce qui est écrit, ou est-ce que nous allons le vivre? Ou alors est-ce que c'est pour plus tard? Ça, je ne vais pas répondre à cette question. Et je vais vous laisser à vos différentes réflexions. Mais je sais que l'Apocalypse, écrite dans un temps intense de persécution, ne l'a pas été faite pour faire peur. mais faire entrer les destinataires dans une angoisse terrible, au point de ne plus lire, avec l'excuse de dire « je comprends pas ». Il y a bien d'autres récits de l'Ancien Testament écrits dans les mêmes conditions que l'Apocalypse, tel Ézéchiel, tel Daniel à Babylone, tel Zacharie qui était aussi en exil. Tous étaient dans le même bateau, dans le même problème. La persécution, le mal, la souffrance. Mais là aussi, ce sont des écrits prophétiques et apocalyptiques, parfois, que les chrétiens contemporains évitent. On ne comprend pas. Mais quand même, le but de ces écrits, c'est quand même l'encouragement. Eh oui, quoi qu'on en dise, l'encouragement, la persévérance, le renouvellement de la foi. Et si on relit le verset 3 que nous avons lu, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Heureux. Il n'est pas mis « peureux ». Il est mis « heureux ». Heureux. Oui, ok, le temps est proche. Le grand jour, la colère arrive, mais heureux celui qui lit, ceux qui entendent et qui gardent. Et dans l'Apocalypse, sept fois revient le mot heureux. Là aussi, hein. Allez voir. Heureux, mais qui est heureux? Selon le texte, celui qui lit, littéralement, c'est celui qui donne la lecture. Si moi je vous le lis, je suis heureux. Ben, vous pouvez lire. Celui qui propage le texte, celui qui transmet, mais celui qui entend aussi, celui qui reçoit. Enfin, ceux qui veulent bien écouter, ceux qui gardent en mémoire, ceux qui acceptent. On pourrait envisager que ce texte a été lu dans une réunion d'église et que c'était plus qu'une prophétie, plus qu'un texte à lire, c'était une prophétie. Mais pour la plupart d'entre nous, ça pourrait être aussi lire, entendre ce que dit le texte et le comprendre. C'est un peu plus difficile, mais il y a moyen. Il y a des choses qui ressortent de ça. Peut-être faire un effort sur la symbolique et finalement mettre en pratique et s'accaparer de cette promesse. À plusieurs reprises, il nous est dit de persévérer dans la foi. Persévérer dans la foi. Refuser les compromis avec le monde. De souffrir pour le Seigneur plutôt que de porter la marque de la bête. Juste une petite parenthèse. Il y en a qui ont peur du 666. Il est affiché 666. Oh non, oh non. Je suis désolé, mais dans le texte original, c'est en grec. Il n'y a pas de chiffre à... C'est marqué en toutes lettres. Alors, qu'est-ce que le signe de la bête? Il faut que ce soit marqué en toutes lettres. Je ferme la parenthèse. Cette obéissance n'est certes pas facile pour les premiers chrétiens, ni pour nous. Après plusieurs années d'église, parfois, c'est très difficile. Et c'est pendant plusieurs époques que l'Église a dû passer par ces persécutions. C'est pas facile non plus de vivre dans notre société sécularisée, antichrétienne. Faut pas dire qu'on est chrétien, parce que alors là... Et parfois, les compromis avec le monde sont parfois intéressants. Et parfois, surtout séduisants. Mais ce livre de l'Apocalypse qui nous parle... d'un récit fantastique au sens surnaturel du terme, doit devenir et redevenir un livre fantastique pour nous chrétiens du XXIe siècle que nous sommes. Et sachez une chose, c'est que Billy Graham disait, j'ai lu la dernière page et l'histoire finit bien. Ça, c'est encourageant. Ça, c'est encourageant. Et si notre lecture des quatre chevaux, effectivement, peut faire peur, parce que cette vision nous décrit ce que nous vivons déjà, peut-être, ou l'accentue davantage vers l'avenir. La suite de notre récit nous conduira vers la victoire finale d'un autre cavalier et que je vous propose de rencontrer. Dans Apocalypse 19, verset 11. « Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. » Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». Un peu plus loin, chapitre 22, verset 16, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises ». Verset 20 du chapitre 22, « Celui qui atteste ces choses dit, « Oui, je viens bientôt. » Oui, je viens bientôt. Dans l'Apocalypse, on n'a peut-être pas besoin de tout savoir, de tout expliquer, de tout retenir. Le plus important, c'est qu'au travers de notre lecture, nous puissions discerner, même si ce livre est compliqué, les encouragements, les exhortations, les soutiens de notre foi. Souvent, on entend dire « Oh, fais une réunion pour donner un monde meilleur. On essaie de faire un monde meilleur. » Réunion du c'est bazar et tout ce que vous voulez, pour un monde meilleur. L'Apocalypse nous décrit ce monde meilleur que notre Dieu fidèle veut nous donner, à nous, de l'attendre avec foi et persévérance. Et c'est Jésus qui revient avec cette certitude lui-même au cœur de la tourmente, qui disait dans Luc 21-28, « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. » Il y a de l'espoir, même en lisant l'Apocalypse. Alors, comme je le disais, on n'a pas besoin de tout savoir pour tous les détails du comment, du pourquoi. Nous avons à être prêts. Être prêt, telle une petite image, telle une petite fille qui attendrait sa maman sur le quai de la gare. On n'a pas besoin de savoir comment s'appelle celui qui va faire l'aiguillage. Pas besoin de savoir comment s'appelle le chef de gare. Pas besoin de savoir combien il y aura de monde dans le train. Elle est là, elle attend. À vouloir parfois trop chercher, on risque de passer à côté de l'essentiel. L'essentiel, l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a mis dans son Fils Jésus et dans la rédaction de sa parole pour notre salut. Alors, heureux celui qui lit, ceux qui entendent et qui gardent la parole de Dieu, et c'est André Chouraki qui traduit le terme « heureux » par « en marche ». Et je reprendrai son expression pour clôturer. Lisez, entendez, gardez et en marche. Soyez heureux. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Seigneur, nous voulons vraiment nous mettre à ton écoute. Parfois, si c'est compliqué, si c'est difficile, nous voulons discerner qu'au travers de tout ça, il y a un espoir, il y a de l'espérance, il y a ton amour qui traverse les siècles. Seigneur, encore une fois, nous voulons nous accrocher à toi, nous accrocher à tes promesses, que tu reviens bientôt. Peut-être c'est peut-être lourd à nous, être humain, ce mot « bientôt », mais pour toi, c'est une promesse. Et c'est à la promesse que nous voulons nous accrocher. Encore une fois, dans le nom de Jésus, nous t'avons prié, qu'à toi revienne toute la gloire. Amen.